Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Sonia.
Bonsoir, je remercie Paul pour ses précieux conseils déjà.
Ah mais Paul est formidable, il vous amène comme sur un tapis de velours.
Oui voilà, parce que c'est un petit peu délicat mais voilà.
Vous allez voir, on va être dans le dialogue et vous allez oublier l'antenne et tout le reste.
Oui.
Alors Sonia, de quoi vous vouliez-vous nous parler?
Mais écoutez, je vais essayer d'aller au plus simple. J'ai fait déménager ma mère de son pays natal, on va dire, suite à une hospitalisation.
Oui.
Donc je l'ai mise dans un EHPAD près de chez moi, parce que moi j'ai bientôt 70 ans.
Oui.
Et bon, donc je vais la voir régulièrement. Elle est pas loin, mais là pour Noël, j'ai certains de mes enfants qui sont venus et qui sont allés la voir parce qu'ils habitent loin. Ils sont allés la voir le mercredi où je vais d'habitude. J'y vais tous les mercredis d'habitude.
Oui.
Et donc, si vous voulez, quelque part, ça m'a soulagée. Parce que j'ai pas une relation très très affectueuse avec ma mère. C'est plutôt une relation de devoir.
Mmh.
Et donc le mercredi, j'étais heureuse de les avoir. Enfin, voilà, on faisait Noël ici. Bon, elle ne voulait pas de toute façon venir avec nous, puis son état ne le permet pas beaucoup non plus. Elle n'est pas Alzheimer hein, du tout, mais elle est quand même très fragile. Et donc, elle n'est pas venue, mes enfants y sont allés, et moi, le jour de Noël, d'habitude, tous les autres Noëls, je l'appelais, quoi. Et là, je ne l'ai pas appelée. Et je n'ai pas pu l'appeler. Et ce qui m'a fait vraiment souci, c'est que ça m'a beaucoup culpabilisée, mais en plus, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Paul, c'est que j'avais l'impression d'être dans l'incapacité matérielle. Enfin, j'étais gelée, je ne pouvais pas appeler.
Mmh.
C'était impossible physiquement.
C'est très fort ce que vous dites, Sonia, parce que ce que vous décrivez, c'est typiquement ce qu'on appelle une formation de l'inconscient. La formation de l'inconscient, enfin, ce qu'on connaît le mieux, c'est les lapsus, les actes manqués. Mais parfois aussi, ce sont des inhibitions très fortes, comme si vous étiez frappé d'impossibilité, de paralysie, parce que vous avez dans votre inconscient un motif très fort qui, à ce moment-là, prend le dessus. Et ça donne ce que vous décrivez très bien comme une paralysie. C'est, comme vous le dites, c'est insurmontable. C'est impossible qu'on vous réponde, un peu de volonté, on peut se forcer. Non, quand c'est une formation de l'inconscient comme ça, il y a quelque chose de radical qui dit non.
C'est exactement ça.
Mais oui.
Alors je me donnais des excuses en me disant, bon, de toute façon, elle met pas ses appareils, elle va pas bien entendre. Mais je pouvais pas. Prendre le téléphone, c'était... J'avais l'impression que ça allait me brûler les mains.
Déjà, ce qu'on peut dire en première approche, puis on va essayer d'approfondir ce qui a pu générer ça dans votre relation avec votre mère, mais en permanence dans notre esprit, ce sont des forces psychiques qui s'équilibrent et parfois s'affrontent. D'un côté, d'après ce que vous dites, vous êtes beaucoup sur le circuit du devoir, donc c'est comme si sur un côté de la balance, il y a le devoir, ce qu'on appelle votre surmoi, qui en général pèse le plus lourd et qui vous amène à voir votre mère tous les mercredis. Et sur l'autre côté de la balance, il y a votre désir ou la vérité de la relation qui ferait que peut-être vous voudriez la voir moins que ça. Alors, la plupart du temps, c'est votre sens du devoir, votre surmoi qui l'emporte. Mais là, ce qui s'est passé, c'est comme vos enfants étaient là pour, en quelque sorte, assumer le devoir à votre place, votre surmoi vous a un peu laissé tranquille, et c'est la vérité de ce que vous éprouvez qui a été sur le devant de la scène et qui a organisé la formation de l'inconscient. Là, il y a une vérité de vous qui s'est exprimée. Mmh. Vous voyez ?
Mmh. Je ressens exactement ce que vous me dites.
Oui.
C'est exactement ça.
Alors peut-être que ça vaut la peine qu'on approfondisse ça, sur de quoi est faite votre relation à votre mère, pour qu'au fond, si la vérité profonde soit que peut-être vous n'avez pas envie de la voir, et s'il n'y avait pas le devoir, peut-être que vous ne le feriez pas au moins.
C'est sûr.
Qu'est-ce qu'il y a entre vous qu'est-ce qui cloche entre vous et votre mère?
En fait, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une relation de mère-fille. Si vous voulez. Elle aussi, par rapport à moi, elle a toujours été dans le devoir de mère.
Oui. C'est-à-dire, comment vous avez vécu ça?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affection, de gestes tendres, de... Il fallait que je sois la fille parfaite, si vous voulez. Et voilà, elle a tout fait pour que j'ai... Mais c'est tout, quoi. J'en ai parlé à mon médecin parce qu'au début, au début elle était isolée. Il fallait avec le Covid, il fallait que j'y allais tous les jours. Et c'était vraiment très, extrêmement pénible. Et il m'a dit, Paul m'a dit de ne pas donner trop de détails, mais votre mère était dans l'enseignement. Et je lui ai dit oui. Et en fait, voilà, elle est restée l'enseignante, quoi, par rapport à moi.
Voilà. Elle fait le maître en permanence.
Voilà.
Et comme elle est dans une relation maître ou maîtresse-élève, il n'y a pas beaucoup de place pour la maman de l'amour.
Du tout.
Ça a été depuis toujours ou même très petite dans votre vie?
Beaucoup, ouais. C'est-à-dire oui, parce que oui, ma grand-mère était très, très affectueuse, mais ma grand-mère s'occupait de moi quand j'étais bébé. Hein.
Oui.
Parce que ma mère n'a pas trop bien supporté ma naissance, tout ça. Enfin, bon.
Ah bah quand on fait le maître, on n'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui sache faire mieux que nous. Même si on a... Même si elle n'avait pas envie de faire elle-même.
Après, bon, elle a trouvé... après que je suis née, donc après, bon, elle a été malade, ma mère, donc elle m'a donné... Enfin, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et après, quand ma mère a repris le travail, ça a repris, ça a été mieux, qu'elle a repris le travail, j'ai eu une nounou.
Oui.
Et en fait, je me suis beaucoup, beaucoup attachée à ma nounou. Avec qui a 95 ans aujourd'hui, mais avec qui j'ai toujours des relations, même si c'est très loin, on se téléphone beaucoup, voilà. On s'échange des fleurs, de tout, quoi.
Oui. Donc c'était, elle, une source d'amour dans votre vie.
Complètement. De chansons, de rire, c'est à elle que j'ai envie d'apporter un gâteau, pas à ma mère, vous voyez.
Ben oui.
De toute façon, ma mère, si j'ai apporté un gâteau, elle veut me jeter à la figure, parce qu'elle dit, je veux pas manger des sucreries, enfin voilà. C'est pas bien pour le régime, c'est pas... Tu vas grossir.
Oui, donc il y a plus qu'une mère qui est que dans le devoir face à vous. Il y a aussi une mère qui a une certaine agressivité envers vous.
Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, mais là, depuis qu'elle est à l'EHPAD, elle est souvent très agressive, ouais. Parce qu'elle me reproche de l'avoir déménagée de chez elle, si vous voulez. Ça s'est fait à son insu. C'est normal qu'elle réagisse comme ça aussi. J'ai vu la psychologue, elle m'a dit, vous comprenez, pour elle, c'est un arrachement. Je dis, je comprends bien, mais moi, j'avais pas trop de choix non plus. J'ai eu un accident une fois en allant la voir, et puis bon, là, elle était au CHU depuis 3 mois, il fallait bien que je fasse quelque chose, quoi.
Vous en aviez discuté de son arrivée dans l'EHPAD? Est-ce que
avec
vous avez...
Elle, je ne pouvais pas à ce moment-là, parce que quand elle était à l'hôpital, elle était dans un état... on ne pouvait pas discuter du tout, quoi. Du tout.
C'est-à-dire, quand vous parliez de son... Vous disiez que votre mère a été hospitalisée, et ensuite, quand il a fallu prendre une décision, elle refusait le dialogue? C'est-à-dire que même quand vous lui parliez de votre idée d'EHPAD dans votre région, elle refusait le dialogue?
On ne pouvait pas parler du tout. Elle ne répondait à aucune question.
Et est-ce qu'elle exprimait ce qu'elle voulait pour sa vie? Est-ce qu'elle vous a dit...
Elle voulait mourir.
Ah oui, donc ça c'est... Oui, ça forcément c'est pas audible.
C'est encore ce qu'elle dit d'ailleurs.
Elle le dit encore?
Ah oui. Elle dit que bon, si elle avait pu choisir, mais c'est incompréhensible parce que si vous voulez, elle se rebelle contre tout ce qui se passe à l'EHPAD, alors vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent, franchement. Enfin, moi, tout ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, hein, parce que c'est pas évident, mais franchement, mais elle est agressive aussi avec le personnel. Et puis... Mais en même temps, elle va râler pour des broutilles, alors si on veut vraiment mourir, on s'en fiche de ces broutilles, quoi. Donc c'est pas vrai qu'elle veut mourir, voyez.
Manifestement, vous disiez de votre mère qu'elle aimait faire le maître. C'est comme ça un terme de psychanalyse, hein, faire la position du maître. Voilà, c'est pourquoi je ne le mets pas au féminin. Mais bon, ça, ce qui correspondait aussi à son métier. Donc finalement, votre mère, là... n'est plus maîtresse de sa vie. Elle ne peut pas faire le maître avec son entourage parce qu'elle est en position de faiblesse. Donc psychiquement, elle le vit extrêmement mal. Et
extrêmement mal.
C'est ça qui la rend agressive, probablement.
Oui. Oui, ça c'est évident, quoi.
Donc
c'est
pour elle, la vieillesse est une catastrophe, parce que la vieillesse et la maladie la privent d'une position de maître dans laquelle elle s'est reconnue pendant toute sa vie.
Oui, parce que même au décès de mon père, bon, j'étais très très fusionnelle avec mon père. Mon père est décédé il y a 6 ans, mais elle avait très très bien remonté la pente, quoi.
Avec lui aussi, elle était dans une position plutôt de maîtrise et de maîtresse-femme, comme on dit.
Oui, oui.
Oui.
Oui, elle le soignait comme un enfant.
Donc, au fond, ça paraît étrange de dire ça, mais peut-être que le plus grand drame de la vie de votre mère n'est pas son veuvage. Ça n'empêche pas qu'elle aimait énormément votre père. Là, on parle d'équilibre psychique, pas seulement de sentiments. Le plus grand drame de sa vie n'est peut-être pas son deuil, dont psychiquement elle peut se relever et après quoi elle peut se rééquilibrer. Le plus grand drame de sa vie, c'est la perte du sentiment de maîtrise.
Absolument.
Et là, elle n'arrive pas à trouver une autre position dans laquelle peut-être il n'y a pas de rapport de force. Elle conçoit les choses de façon, dans une dualité, comme toute personne qui fait le maître. Hein. On conçoit les choses dans une dualité, soit on est maître, soit on est soumis. Et là, probablement, depuis qu'elle est malade, elle se vit comme soumise, et c'est insupportable.
Oui, totalement. C'est exactement ça. Vous mettez dans les en mots exactement tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je vis, quoi.
Et ça, c'est quelque chose de son côté. Alors, quand elle dit qu'elle veut mourir, je suppose que parfois elle se dit à elle-même, et parfois elle le dit tout haut, comme on fait tous, plutôt mourir que de vivre la perte de maîtrise dans ma vie.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Elle dit, et puis ça va être de pire en pire. Elle me dit, bon, là encore, je peux réagir, je peux me rebeller. Elle aimait les maths, alors elle a une petite aide-soignante. Elle dit, ma mère, elle perd un peu la tête, elle sait même plus très bien, mais elle essaie absolument de lui faire faire des maths.
Ah oui, donc c'est fort. Vous voyez, là, on a le sentiment, Sonia, que c'est vraiment une question de survie. Si votre mère ne peut pas avoir la position de maître, même dans un petit îlot de sa vie, elle n'arrive pas à se tenir dans l'existence. Elle n'a pas son support intérieur.
Exactement.
C'est très fort, c'est très très fort.
Mais que faire ?
C'est difficile parce que je crois que c'est difficile de demander maintenant à votre mère, après plus de 90 ans fondée sur une position de maîtrise qui lui a pas trop mal réussi finalement, parce qu'elle a fait un métier en accord avec son profil psychologique, elle a fait un couple qui semble être une réussite, puisque son mari s'accommodait de cette position-là et qu'apparemment ils avaient trouvé une façon de se compléter. Donc ça a été un succès pour la vie de votre mère. Alors, pas pour vous, parce que manifestement, vous, cette position de maître ne convenait pas à votre sensibilité d'enfant qui avait besoin d'amour. Mais bon, de son point de vue à elle, c'était un succès jusqu'à ce que la tuile de la maladie, assez tard, vient la priver de la maîtrise et la mettre dans une position de soumission. Elle, c'est comme ça qu'elle le vit, dans sa grand-mère.
Ouais, exactement.
Voilà. Par rapport à sa fille, déjà, alors ça, c'est particulièrement insupportable dans leur dégénération, et surtout qu'elle était assez exigeante, pour pas dire tyrannique avec vous, et avec le personnel aussi. Donc là, je crois qu'il n'y a rien à faire de ce point de vue-là. À part laisser au personnel la responsabilité de ne pas se laisser maltraiter et de se positionner par rapport à elle, ça, vous pouvez rien faire par rapport à ça.
Eux, ils me disent que, bon, si vous voulez, eux, leur réponse, c'est « vous inquiétez pas, nous, on sait gérer ».
Ben oui.
Mais protégez-vous. Moi, la cave, c'est ce qu'elle m'a dit.
C'est plein de sagesse.
Protégez-vous.
Oui, parce que vous, autant le personnel peut s'en débrouiller, parce que le personnel, il n'est pas dans une demande d'amour et il n'est pas dans une histoire affective. Donc, il est capable d'identifier un mécanisme psychique et de s'adapter. Mais vous, qui avez une longue histoire douloureuse et chaque rebuffade de votre mère vous renvoie aux douleurs de votre enfance. Donc, c'est pour vous. Donc, effectivement, c'est vous protéger. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on ne se protège pas en conscience, votre inconscient s'en charge, puisqu'il vous a frappé d'une sorte de paralysie. pour vous dire, pour vous amener à saisir l'opportunité de la présence de votre famille pour prendre la relève, pour que vous puissiez faire une pause. Donc là, votre inconscient s'en est chargé de vous protéger. L'idée, c'est que vous puissiez maintenant vous protéger en pleine conscience. Alors, quelle marge vous avez par rapport à votre sens du devoir pour alléger un peu le fardeau d'être exposé à l'agressivité de votre mère?
Déjà, le fait que mon médecin m'ait dit d'y aller qu'une seule fois par semaine, ça m'a quand même bien aidée.
Bah oui.
Parce que je me sentais obligée d'y aller beaucoup plus et je revenais ravagée, quoi.
Oui. Votre mère, quand vous y allez une fois par semaine ou quand vous espacez, elle fait des commentaires?
J'ai pas compris votre question.
Oui, c'est-à-dire que quand vous espacez, est-ce que votre mère fait des commentaires? Est-ce qu'elle elle vous dit quelque chose?
Je vais régulièrement tous les mercredis.
Oui. Et quand vous êtes un peu supposé que vous soyez moins régulière, vous pensez que votre mère... Quelle serait la réaction de votre mère, à votre avis?
Je sais pas. Je sais pas si elle ferait des reproches ou pas. Je sais pas. Les reproches, elle me les fait pas par rapport tellement à la, aux journées, parce qu'elle les, elle se perd un peu des fois dans la semaine.
Oui.
C'est plutôt moi qui me suis fixé le... si vous voulez, pour... parce que je me dis, si je me donne pas un jour, j'irai plus. Vous voyez, c'est plutôt moi qui me suis obligée au mercredi.
En fait, vous craignez votre, vous craignez un peu votre inconscient, c'est-à-dire vous vous dites que si vous ne tenez pas, voilà, si vous tenez pas solidement la bride, vous risquez de lâcher complètement.
C'est ça. Mais elle, non, je pense pas. Elle, les reproches qu'elle me fait, bon, c'est par rapport à tout. Elle est capable de hurler dans l'escalier, de me hurler des insultes, n'importe quoi. Enfin, c'est
oh là là, qu'est-ce que c'est violent.
Je lui ai déménagé plein d'affaires de sa maison. J'ai pris un déménageur pour qu'elle ait un peu des affaires personnelles, tout ça, des choses un peu... Et là, bon, ça a été une colère monstre, ça a été... Enfin, j'en avais honte par rapport au déménageur, enfin... c'était des amis, hein, qui... Bon, j'avais trouvé une occasion, enfin bref, peu importe. Mais j'ai eu honte, puis là, maintenant, elle arrête pas de me dire que tout le monde se moque d'elle parce que j'ai fait apporter ceci au solaire, enfin... Et elle veut pas ouvrir les cartons, enfin... Non, non, c'est que des reproches par rapport à tout ce que je fais, ou ce que j'apporte, ou ce que j'apporte pas, ou ce que j'ai oublié, ou ce que j'ai pas oublié. Enfin,
ce qui est très difficile là, c'est que la pente que ça prend, c'est que votre mère, pour retrouver dans la vie un sentiment de maîtrise, elle le prend dans la méchanceté, c'est-à-dire dans le pouvoir de vous faire souffrir. Parce que, bon, peut-être qu'il y a une partie, peut-être dégénérative.
Oui,
peut-être
effectivement, il y a des neurones, enfin, il y a une maladie de vieillesse, en fait.
C'est ça, c'est ça.
Ça avait été détecté à l'hôpital. Et ce que m'avait dit la cadre un jour, elle m'avait dit, parce que souvent, quand partant, je pleurais, quoi. Je sortais, je pleurais. Elle me dit, mais un jour, il faut que vous arriviez à pleurer devant elle. Et je dis, mais je peux pas pleurer devant elle. Et puis un jour, elle était vraiment tellement méchante, je me suis mise à pleurer, vraiment. Et j'arrivais plus à m'arrêter. Et là, ça l'a perturbée, quand même.
Elle était interdite face à ça.
Ouais, là, parce qu'elle m'avait jamais vu pleurer comme ça, quoi.
Oui.
Et depuis, elle est moins méchante.
Oui, donc là, quand même, elle a pris conscience de quelque chose. Mais c'était extrême. Il a fallu que vous alliez très loin pour qu'il y ait une forme de prise de conscience de sa part.
J'étais démunie complètement.
Oui, il me semble que c'est pas souhaitable que vous retourniez dans des états comme celui-là pour pouvoir mettre une certaine limite à l'agressivité de votre mère. Je pense plutôt que c'est d'augmenter la protection et de voir ce que ça fait. Par exemple, qu'est-ce que vous penseriez, puisque vous avez l'habitude d'y aller tous les mercredis, de vous dire que vous sautez un mercredi, juste une fois. Après tout, on peut toujours être malade, avoir un empêchement. Juste, vous la faites prévenir. Je suppose que c'est possible à l'EHPAD où vous voilà, où vous lui téléphonez peut-être en disant, maman, là, je peux pas venir. J'ai besoin de me soigner, ce qui est pas franchement un mensonge parce que c'est vraiment, vous avez besoin de soins psychologiques. Là, j'ai besoin de me soigner. Je ne peux pas venir cette semaine et peut-être de voir ce que ça produit.
Oui, peut essayer.
Ça, voilà, parce que je pense que pour vous, finalement, la question, elle est entre vous et vous, parce que votre mère ne changera pas. Je pense même qu'elle a plutôt des ressources, qu'elle est probablement moins malheureuse que vous, c'est-à-dire que même à l'intérieur de la situation, elle trouve quand même moyen d'être maître, et le personnel gère ça, donc elle arrive à peu près à être dans son équilibre à elle. Donc je pense que l'absolue priorité, c'est de vous protéger, vous, pour que vous puissiez faire avec cette balance dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous puissiez équilibrer un sentiment de devoir au sens de faire quand même suffisamment par rapport à votre idée de ce qu'est une bonne fille, et votre vérité qui est que si vous pouviez, vous ne la verriez plus du tout. Vous voyez ? Et je pense que c'est l'intérêt d'essayer, c'est pas seulement de voir ce que ça fait de son côté, c'est surtout de voir ce que ça fait pour vous. C'est-à-dire, quel est l'équilibre qui vous permet d'avoir le sentiment de bien vous comporter par rapport à vos valeurs dans l'existence, tout en respectant votre vérité et la nécessité de bienveillance, soit de soins envers soi-même. Et peut-être en faisant comme ça par essai, en affinant, vous allez probablement arriver à un équilibre peut-être un peu plus bienfaisant pour vous que l'équilibre actuel. Parce que une fois par semaine, c'est encore énorme quand on revient ravagé, comme vous le dites. Je ne dis pas que c'est énorme dans l'absolu pour aller voir sa mère, mais c'est énorme. Un ravage par semaine, c'est énorme.
C'est... Et oui, d'ailleurs, je préviens toujours mon mari, je lui dis, tu sais... C'est pas loin, hein, mais je dis, m'attends pas pour manger, je vais m'arrêter plusieurs fois, je vais promener le chien, je vais m'arrêter, parfois je m'arrête 10 fois pour faire 30 kilomètres, quoi.
Oh là là.
Et pour rentrer tranquillement, enfin, pour m'apaiser avant de rentrer, quoi.
Oh Sonia, je crois que vous pouvez pas vous infliger ça toutes les semaines.
C'est... Alors j'ai des prétextes pour pas y aller les autres fois, parce que j'ai plein d'autres activités, tout ça, donc... Et puis le week-end, j'ai dit non, ça, le week-end, je ne viendrai pas parce que je reste avec mon mari.
Oui. Voilà. Là, vous faites bien. Vous faites bien.
Bon. Donc, j'ai mis ces limites-là, si vous voulez. Pour,
oui. Voilà. C'est courageux de votre part. Et vous voyez que finalement, votre sentiment de devoir, ce n'est pas un monolithe inexorable. C'est quelque chose qui peut bouger aussi en fonction des expériences que vous faites.
Oui. Disons de m'accrocher à ça pour, parce que je me disais sinon, si je n'y vais pas, je ne vais pas y retourner, quoi. C'est ça que je... Vous voyez, ce sentiment que j'ai eu là, le jour de Noël, ça m'a fait très peur, parce que je me suis dit, mais au fond, je vous dis, c'est comme si j'étais gelée, comme si j'étais bloquée, comme si j'étais
je vois très
dans
bien
la capacité complète de bouger, de parler, de faire quelque chose. De...
Là, votre inconscient a mis une limite pour votre bien. Parce que c'était trop pour vous, donc c'était nécessaire. C'est quelque chose, il a mis quelque chose d'infranchissable au-dessus de quoi même le sentiment de devoir ne pouvait pas passer. Moi, je pense que c'est très important que vous teniez compte de tous ces signes d'alerte. Enfin, c'est extrême, d'accord, ce que vous dites, de vous arrêter comme ça et d'essayer de trouver un équilibre qui soit mieux pour vous. Sachant, Sonia, enfin, pour moi qui écoute beaucoup de patients au cabinet, peut-être aussi vous donner le droit, en dernier ressort, de ne plus voir votre mère si ça vous ravage. Je ne vous dis pas de le faire, mais parfois, vous savez, nous sommes... Un être humain, c'est un monde d'idées. Enfin, c'est avant tout un monde psychique. Si vous arrivez à vous dire que, en dernier ressort, si vous êtes absolument ravagé, vous pouvez vous autoriser à ne plus la voir, et vous verrez bien s'il y a un cas extrême qui se produit, rien que ça, même si vous ne le faites pas, ça peut vous redonner un peu un sentiment de liberté.
Possible peut-être.
Exactement. Voilà. Simplement vous dire que c'est possible. Et qu'en cas extrême, si c'est une question de survie, ça ne fera pas de vous quelqu'un d'indigne. Et par rapport à ça, simplement que ce soit possible, ça peut vous donner du jeu pour essayer de sauter une semaine, Et puis peut-être d'en sauter deux, et puis vous verrez bien comment vous êtes entre votre sentiment de devoir et puis votre... Et puis votre sérénité qui peut-être vous amènera à prendre des mesures pour espacer.
Oui, il y a des moins dans le... dans la contrainte.
Exactement, exactement. Et là, bon, c'est pas de... il s'agit pas de vous faire peur, mais quand on est trop dans la contrainte et qu'on n'arrive pas à mettre des limites en pleine conscience, parfois c'est d'autres choses qui s'en chargent. Ce serait quand même dommage que vous tombiez malade ou que vous ayez un petit accrochage en voiture pour pas y aller, vous voyez ?
Oui,
voilà.
C'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis allée la voir chez elle. Hein. J'ai eu un accident. Bon, heureusement, j'ai blessé personne.
Sonia, ça, c'est des signes très importants parce que ça montre à quel point vous ne supportez pas et à quel point votre vérité intérieure, c'est que ce ravage est insurmontable. Et finalement, si vous n'arrivez pas à assumer en pleine conscience d'espacer, eh bien, c'est votre inconscient et des événements dans le réel qui le font, vous voyez. Donc c'est dommage d'en arriver là, parce que c'est dommage de remplacer un ravage par des inconvénients comme être malade, avoir des accrochages ou des choses comme ça. Il vaut mieux le faire en pleine conscience.
Et je vous remercie énormément parce que c'est tellement clair tout ce que vous dites, c'est formidable. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer parce que j'ai l'impression que vous me connaissez. c'est drôle. Ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que voilà, c'est exactement ça quoi.
Oui. Ce que je sais, Sonia, c'est que la bienveillance envers soi-même, c'est notre premier devoir. Parce que selon les émotions que nous avons, nous donnons à notre corps une information qui soutient la vie ou qui la dénie. Donc c'est vraiment un devoir qu'on a envers soi-même que personne ne peut faire à notre place. Et vous vous devez à votre mère, mais vous vous devez aussi à votre couple et à ceux que vous aimez, à ceux à quoi vous tenez dans la vie.
Oui.
Bon.
Merci.
Eh bien, Sonia,
merci.
Écoutez,
merci.
Vraiment avec plaisir.
Vous et Caroline, enfin, comme les deux, je vous aime beaucoup, je vous adore, mais j'écoute souvent parce que ça donne tellement de précieux conseils à tout le monde.
Oui.
Hein, mais là, ça me touche vraiment du fond du cœur parce que c'est tellement vrai tout ce que vous avez dit et je le ressens. Très, très, très profondément, quoi.
Bon, alors, c'est que c'est de cœur à cœur, Sonia. Je vous dis de tout cœur, prenez soin de vous, prenez soin de vous.
De cœur à cœur, merci.
Et je vous embrasse.
Moi aussi.
Au revoir, Sonia.
Sabine Caligari sur RTL. Parlons-nous.